On va commencer. Donc après des séances consacrées hier et ce matin donc à la démocratie sous son versant politique, la séance donc de cet après-midi sera consacrée à la démocratie au travail, à la démocratie dans l'entreprise, à la question de la négociation dans le monde du travail. Donc, ce sera Baptiste Giraud qui va intervenir, qui est maître de conférence en sciences politiques à l'université de Aix-Marseille. Juste avant de lui céder la parole, un rappel, vous avez donc à l'entrée un stand de la librairie La Belle Aventure qui recueil, qui, enfin, le stand a été réalisé en partenariat avec le festival et vous pourrez trouver la plupart des ouvrages des auteurs qui interviennent ou des ouvrages sur les thèmes des interventions. Voilà, donc nous vous recommandons d'aller y jeter un coup d'œil. Baptiste, c'est à toi.
Okay. Merci. Merci d'abord aux organisateurs de m'avoir invité. Donc effectivement, à partir de mes recherches qui portent essentiellement sur les conflits du travail, sur l'aspect à la fois mobilisation collective et négociation collective en entreprise. Donc je vais essayer de revenir un peu sur la question de la démocratie sociale à travers cette intervention et en partant plus spécifiquement sur la question des enjeux politiques et sociaux qui portent, que sous-tendent les réformes engagées sous le quinquennat Sarkozy dans le domaine des relations professionnelles, puisqu'il y a donc eu, au cours de ces 5 dernières années, un ensemble de lois qui ont prétendu moderniser la gestion des relations sociales en entreprise. Alors, je pense en particulier à l'une des lois les plus connues, c'est la loi du d'août 2007, visant à instaurer un service minimum en cas de grève dans le secteur public et dans le secteur des transports publics en particulier, instaure en particulier l'obligation aux agents qui souhaitent se mettre en grève de se déclarer gréviste 48 heures avant auprès de leur hiérarchie, même si, du coup, comme j'ai un peu plus de temps, je prends le temps de préciser que cette loi dite du service minimum porte assez mal son nom en réalité. Puisqu'elle contraint davantage l'exercice du droit de grève dans le secteur public, mais en aucune manière elle ne peut garantir l'existence d'un service minimum dans l'hypothèse où l'ensemble des agents souhaiteraient se mettre en grève. Cette loi ne prévoit pas qu'il existe un service minimum. Donc là encore, dans ce domaine, donc comme dans beaucoup d'autres, il y a quand même un écart assez important entre ce qu'annonce la loi et ce qu'est concrètement et ce que permet concrètement le contenu de la loi. Mais c'est sur un autre volet des réformes engagées dans le domaine des relations professionnelles sous la présidence Sarkozy que je voudrais revenir. Ce sont toutes les réformes législatives qui ont pour objectif de procéder à la nécessaire modernisation des relations professionnelles et qui visent pour cela à renforcer, à soi-disant en tout cas, c'est ce que je vais questionner, renforcer le rôle de la négociation dans la production des règles juridiques qui encadrent les relations de travail et qui visent donc à faire de la négociation entre organisations syndicales et employeurs au niveau des entreprises le nouveau lieu privilégié de production des normes juridiques des relations de travail. Alors ça, c'est passé d'abord par la loi du 31 janvier 2007, baptisée loi de modernisation du dialogue social, qui impose au gouvernement de soumettre aux partenaires sociaux tout projet de loi concernant les relations de travail pour une éventuelle négociation, le gouvernement s'engageant, si les partenaires sociaux s'entendent par un accord, eh bien à retranscrire l'accord tel quel dans la loi. Et puis, il y a eu la loi du 20 août 2008, qui, elle, est venue bouleverser en profondeur les règles de la négociation collective en France. D'une part, parce qu'elle comporte deux volets essentiels, cette loi. D'une part, elle modifie les critères de la représentativité syndicale. Elle met fin à ce qu'on appelait la présomption irréfragable de représentativité et conditionne la représentativité des syndicats à des seuils électoraux donc est désormais considéré comme représentatif, un syndicat qui fait au moins 10% aux élections professionnelles, donc c'est-à-dire DPCE au premier tour. Et puis deuxième volet très important de cette loi, c'est qu'elle modifie les conditions de validité des accords dans l'entreprise. Auparavant, il suffisait qu'un accord de négociation soit signé par l'une des 5 organisations reconnues comme représentatives, fût-elle ultra minoritaire dans l'entreprise ou dans la branche, pour que l'accord soit validé. Désormais, il faut que l'accord soit signé par une ou plusieurs organisations qui totalisent au moins 30% des voix aux élections professionnelles et que dans le même temps, il n'y ait pas une ou plusieurs organisations qui représenteraient plus de 50% qui ne s'opposent pas à cet accord. Et ces réformes législatives, pour terminer un peu ce tableau général, il faut les mettre en perspective plus généralement avec la volonté des gouvernements de droite comme de gauche, depuis le gouvernement Jospin en particulier, de ne plus intervenir directement par la loi dans la réglementation des relations professionnelles, mais de privilégier une autre voie consistant à inciter les partenaires sociaux à négocier sur un ensemble de thèmes et à s'en remettre à la négociation, à cette négociation pour déterminer les règles qui doivent s'appliquer. Donc je pense en particulier, c'est ce qu'on appelle le modèle d'action publique négociée, la loi négociée, ce fut le cas donc pour les 35 heures par exemple, mais c'est aussi le cas aujourd'hui dans le domaine de l'emploi, sur la gestion prévisionnelle des emplois, c'est encore le cas pour la question de l'égalité salariale homme-femme par exemple, tout un ensemble de domaines, ou la prévention des risques psychosociaux, où la loi fixe l'objectif à atteindre, c'est-à-dire mettre en œuvre, réduire le temps de travail à 35 heures, atteindre l'égalité homme-femme dans les salaires. Donc la loi fixe l'objectif à atteindre, mais les modalités d'application de la loi, c'est à la négociation de les déterminer. On renvoie au niveau de la négociation en entreprise le soin, la responsabilité de déterminer selon quelle modalité la loi doit s'appliquer. Donc, cette entreprise de rénovation des relations sociales et ce modèle d'action publique négociée repose sur une forme de fétichisation, on pourrait dire, de la négociation et sur l'idée qu'il est nécessaire de donner davantage d'autonomie aux partenaires sociaux, aux organisations syndicales et aux organisations patronales, au niveau des entreprises, dans la production des normes juridique du travail. Et c'est une position, je souhaite le souligner, qui fait très largement consensus dans le champ politique, en tout cas entre la droite parlementaire et la gauche dite gouvernementale, hein, puisque si on prend le programme aujourd'hui de François Hollande, il rappelle, il s'accorde, bon, d'une part il n'entend absolument pas revenir sur les lois sur le service minimum, mais par ailleurs il justifie, il soutient lui aussi l'idée de la nécessité pour l'État de se tenir en retrait, de ne plus passer par des lois contraignantes, mais de s'en remettre à la négociation entre syndicats et patronats pour déterminer les règles juridiques encadrant les relations professionnelles. Et donc cette fétichisation de la négociation, elle repose sur au moins deux idées implicites, deux présupposés qui, à mon avis, méritent d'être questionnés, et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Alors le premier de ces présupposés, c'est que toutes ces réformes dites de modernisation des relations professionnelles en France, procède de l'idée qui nous est régulièrement rappelée que le développement de la négociation est nécessaire pour moderniser, adapter, pacifier les relations professionnelles, en partant de l'idée que ces relations professionnelles resteraient enfermées dans une culture archaïque, stérile du conflit, avec l'idée sous-jacente ou d'ailleurs plus explicitement rappelé, qu'il serait impossible de réformer les relations sociales en entreprise. Alors, je ne reviens pas sur toute l'histoire des relations professionnelles françaises, mais il est vrai que l'institutionnalisation de la négociation collective a été particulièrement tardive en France, si on la compare à d'autres pays européens, pays nordiques en particulier. Mais pour autant, ce qu'on peut constater, c'est qu'au moins depuis les lois Auroux, donc celles qui rendent obligatoire la négociation, des négociations annuelles dans les entreprises, donc les lois datant de 1982, eh bien les négociations se sont très très largement développées en France. Depuis les années 2010, il y a en gros 30 000 textes, 30 000 accords qui sont signés chaque année dans les entreprises. Et puis, deuxième constat très simple qu'on peut faire, c'est que contrairement à une idée très, très largement répandue, les organisations syndicales de salariés ne sont pas du tout hostiles, ne rechignent pas du tout à signer ces accords de négociation, puisque toutes les organisations syndicales, y compris la CGT, signent entre 80-90% des textes qui leur sont proposés, soumis dans les entreprises. Et dans le même temps, ce qu'on constate, c'est que ce développement objectif et important de la négociation collective en entreprise n'a pas du tout entraîné une disparition des conflits collectifs ou des conflits individuels au travail. Alors bien sûr, il y a eu une baisse tendancielle du nombre de jours de grève recensés en France, en particulier dans le secteur privé. Mais contrairement aux conclusions qui sont faites généralement de manière trop hâtive, ce déclin du nombre de jours de grève ne signifie pas du tout une disparition des conflits, mais plutôt une transformation des conflits. Je m'explique. C'est que lorsqu'on observe, lorsqu'on décortique un petit peu cet indicateur statistique, on s'aperçoit que la baisse du volume des jours de grève ne résulte pas tant de la diminution du nombre de grèves, mais tient au fait que ces grèves ont changé de forme. Dans la période des 30 Glorieuses, ce qui rythmait et ce qui dominait la conflictualité du travail, y compris dans le secteur privé, c'était des grandes journées d'action professionnelle et interprofessionnelle, donc qui produisaient un volume de grève très important. Alors que ce type de grève a quasiment aujourd'hui disparu du privé, et que dans le privé, la grève se maintient essentiellement sous la forme d'arrêt de travail centré exclusivement au niveau de l'entreprise et même plus souvent au niveau des établissements. Donc en nombre de mouvements de grève, il y a une petite baisse, mais c'est surtout le volume qui a baissé parce que les mouvements de grève sont moins amples. Et puis parallèlement, ce qui convient de dire aussi, c'est que à côté des grèves se maintiennent d'autres formes de conflits sans arrêt de travail, donc des conflits collectifs type rassemblement, pétition, manifestation, mais aussi des conflits individuels. En particulier, les enquêtes statistiques permettent de montrer qu'on a assisté à une hausse très importante du refus des heures supplémentaires, par exemple, des entreprises depuis le début des années 2000. Alors, bien sûr, cette évolution des formes que prend la conflictualité au travail peut être mise en relation avec le développement de la négociation en entreprise, ne serait-ce que parce que le développement de la négociation en entreprise a accéléré le processus de décentralisation des relations professionnelles, donc peut expliquer en partie la fragmentation de l'activité gréviste. D'autre part, parce qu'on peut faire l'hypothèse que le développement de la négociation en entreprise a favorisé une forme de rationalisation des usages de la grève. Pour autant, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le développement de la négociation collective n'entraîne pas une disparition des grèves, d'une part parce que ces métamorphoses de la conflictualité sont évidemment aussi à rapporter aux difficultés plus grandes qu'ont les syndicats mobilisés dans le contexte d'un monde du travail en profonde mutation, on pourra peut-être y revenir dans la discussion. Et puis deuxièmement, parce qu'un des grands enseignements constants de toutes les enquêtes statistiques, c'est de nous montrer que négociation et conflit ne s'opposent pas dans les entreprises, mais vont de pair. C'est-à-dire que concrètement, les conflits sont les plus nombreux et les plus fréquents dans les entreprises où les négociations sont les plus nombreuses et les plus fréquentes. Hein, plus il y a de thèmes de négociation discutés dans les entreprises, plus les conflits sont fréquents, plus il y a eu de réunions au moment des négociations annuelles obligatoires, plus les conflits ont été fréquents. Et au contraire, dans les entreprises où les négociations annuelles dites obligatoires n'ont pas été organisées, il n'y a pas de conflit. Hein. Donc, négociations et conflits se recouvrent. On peut l'expliquer de deux manières. C'est que, d'une part, lorsque des négociations sont organisées, les organisations syndicales sont incitées à mobiliser les salariés pour tenter de peser sur l'issue de ces négociations dans un sens favorable aux salariés. Et évidemment, les deux hypothèses se complètent, elles ne s'opposent pas. Deuxième hypothèse qu'on peut faire, c'est que s'il y a beaucoup de négociations, c'est parce que les entreprises où il y a des négociations, c'est parce que les négociations sont organisées avant tout dans les entreprises où les organisations syndicales peuvent créer d'une manière ou d'une autre le rapport de force qui incite, pour ne pas dire qui contraint l'employeur à mettre en place et à mettre en œuvre les dites organisations. Bon, je le disais, à propos des négociations annuelles obligatoires, elles sont dites obligatoires, mais il y a toute une série d'entreprises où ces négociations qui doivent essentiellement porter normalement sur les salaires ne sont jamais organisées, et c'est le plus souvent le cas dans les entreprises où il n'y a pas de présence syndicale, mais surtout c'est d'autant plus flagrant si on regarde les autres thèmes de négociation que j'évoquais en introduction, par exemple l'égalité salariale, hein, où les entreprises sont incitées à organiser des négociations en échange d'incitations financières, donc en échange, pour le dire clairement, d'exonération sur les dites charges patronales. eh bien, le résultat de ces incitations financières à négocier est très limité, puisque concrètement, des négociations ont été organisées sur ce thème uniquement dans 30% des entreprises, et surtout, seuls 12% des entreprises ont conclu un accord sur ce thème-là. Parce que c'est une autre spécificité de ces incitations à la négociation, c'est que pour se mettre en conformité avec la loi, il suffit d'organiser la négociation, mais il n'y a aucune obligation de résultat. Donc, on voit bien que ces dispositifs sont très largement... l'efficacité, en tout cas, de ces dispositifs est très largement limitée dans la capacité à inciter, à impulser une dynamique de négociation. D'une part, parce que les contraintes légales à négocier restent, peu contraignantes. D'autre part, parce qu'on peut faire l'hypothèse que sur ces types de négociations plus techniques, les représentants du personnel sont peut-être moins connaissants, sont moins familiers de ces problématiques-là. Et surtout, on peut faire l'hypothèse que ces représentants du personnel ont plus des difficultés à mobiliser collectivement les salariés autour de thématiques qui peuvent apparaître plus secondaires que sur des questions comme le salaire. Donc ça m'amène à la deuxième idée qui sous-tend cette volonté de privilégier la négociation plutôt que des lois contraignantes, pour donc privilégier la négociation pour définir les modalités d'application de la loi, eh bien c'est que cette posture, elle est généralement justifiée par l'idée que la négociation permettra de déboucher sur des lois plus légitimes et plus efficaces parce qu'elles ont été mises en œuvre après une négociation entre acteurs de terrain. Donc des règles plus légitimes et plus efficaces, parce que du coup, il en résulterait des règles plus adaptées aux spécificités des entreprises. Alors, le problème, c'est que cette vision un peu angélique de la démocratie sociale, elle occulte complètement les effets pervers que ce modèle d'action publique dit négocié peut générer pour les salariés, parce qu'elle occulte en particulier la question du rapport des forces entre employeurs et organisations syndicales qui conditionnent à la fois l'organisation de ces négociations en entreprise et qui contraignent puissamment l'issue de ces négociations dans l'hypothèse où elles sont organisées. Alors d'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce modèle d'action publique négociée, il contribue à modifier considérablement l'objectif et le sens qui étaient donnés jusqu'alors à la négociation. Jusque dans les années 80, la négociation, elle était conçue uniquement comme un instrument destiné à améliorer les conditions de travail et de rémunération des salariés, puisque les accords de négociation en entreprise ne pouvaient qu'améliorer les dispositions contenues dans les accords de branche, qui eux-mêmes ne pouvaient contenir que des dispositions plus favorables aux salariés que celles qui sont prévues par la loi. Donc, même si on pouvait estimer que les accords ainsi conclus étaient insatisfaisants, n'allaient pas assez loin, etc., entre guillemets, il n'y avait pas grand-chose à craindre de la négociation pour les salariés, parce qu'au pire, on en restait à la loi. Donc, la loi était un filet de sécurité qui garantissait un socle de droits sociaux commun pour tous les salariés. Or, à partir de 1982, et surtout avec les lois des 35 heures sur la réduction du temps de travail, le législateur a multiplié la possibilité des accords dérogatoires. D'autant plus que l'objectif, c'est justement de faire de la négociation un moyen d'adapter la loi aux configurations des entreprises. Donc, la négociation ne sert pas nécessairement à améliorer les conditions de travail et de rémunération des salariés, mais elle est surtout un instrument d'adaptation de la loi au contexte des entreprises. Et ça, donc, ça peut avoir des effets très pervers pour les salariés, puisque, évidemment, si on considère d'une manière d'abord générale le contexte des rapports de force entre employeurs et organisations syndicales dans les entreprises, ce rapport de force est généralement très défavorable aux salariés. D'une part, vous le savez tous, le taux de syndicalisation est faible en France, 5%, et la présence syndicale des entreprises est plus élevée, paradoxalement, que dans d'autres pays comme l'Allemagne, mais elle ne concerne malgré tout que 60% des entreprises. Autrement dit, il y a 40% des entreprises dans lesquelles il n'y a aucune des organisations, des multiples organisations syndicales françaises. Bon, et ce n'est pas parce qu'une organisation syndicale est présente qu'elle est capable de mobiliser les salariés. Dans beaucoup d'entreprises, la présence, elle est uniquement institutionnelle. Hein, compte tenu de ce faible taux de syndicalisation, en particulier dans le privé, ça signifie que dans beaucoup d'entreprises, les représentants syndicaux ne sont pas en mesure de créer un rapport de force collectif. Et puis, au-delà, il faut souligner aussi que le rapport de force est défavorable aux représentants du personnel du point de vue des ressources d'expertise qu'ils sont capables de mobiliser au moment des négociations par rapport à celles que peuvent mobiliser les employeurs. D'une part, parce que les employeurs, au moins dans les grandes entreprises, ont des ressources internes à travers le service de DRH, et puis parce qu'ils ont la possibilité, ça a été particulièrement le cas au moment des 35 heures, de faire appel à des cabinets d'expertise privés, extérieurs, et qu'ils ont donc toutes les ressources à leur disposition pour connaître toutes les failles, toutes les brèches que leur offre la loi pour les exploiter à leur profit. Je reviendrai sur l'exemple des 35 heures. Dans le cas des organisations syndicales, au-delà de la faiblesse des effectifs, surtout ce qu'il faut voir, c'est que les représentants du personnel ont des expériences militantes très différentes et donc une expertise militante et une connaissance du droit du travail en économie très inégale. Alors bien sûr, théoriquement, j'allais dire, les militants les moins aguerris peuvent être soutenus par leur organisation militante, mais là, le problème, c'est que le soutien militant est contraint par les ressources très limitées des organisations syndicales, et c'est particulièrement vrai, et c'est un peu le cercle vicieux, c'est particulièrement vrai dans les secteurs professionnels où la présence syndicale est faible, parce que tout simplement, puisque je pense en particulier sur un secteur où j'ai beaucoup travaillé, l'hôtellerie, café-restaurant, il y a peu de syndiqués, donc qui dit peu de syndiqués, peu de cotisations, donc peu de permanents pour encadrer, etc. Donc le soutien qui peut être apporté aux sections et aux syndicats d'entreprise est très faible. Donc par exemple, concrètement, au moment de la négociation des 35 heures, les organisations syndicales ont mandaté beaucoup de salariés dans les entreprises où elles n'avaient pas de représentants, mais elles n'ont pas pu du tout suivre les négociations qui étaient engagées dans ces entreprises. Donc elles se sont, entre guillemets, contentées de mandater, parce que, pour vous donner une idée, à Paris, l'Union syndicale du commerce de la CGT, c'est 2 permanents et demi pour 4000 adhérents, et pour plus de 250 sections. Donc évidemment, impossible de suivre à 2,5 et 250 négociations d'entreprise. Et donc ce rapport de force a des conséquences très importantes et parfois assez dramatiques sur ce qu'il résulte de ces négociations. Donc si on prend l'exemple des 35 heures, dans certaines entreprises où la présence syndicale est forte, structurée, expérimentée, les 35 heures ont pu être vécues, le passage aux 35 heures, comme un progrès social, parce qu'elle a débouché sur des RTT, donc des jours de congés supplémentaires. Mais dans beaucoup d'autres entreprises, où la présence syndicale est inexistante ou beaucoup plus faible, eh bien, le passage aux 35 heures s'est plutôt soldé, en tout cas, était beaucoup plus vécu comme un recul social, parce qu'il s'est traduit par une annualisation du temps de travail, parce qu'il s'est traduit paradoxalement des fois par le fait que les salariés passent plus de temps dans l'entreprise qu'avant, parce qu'avant, le temps de pause était compté comme du temps de travail et il ne l'est plus. C'était une manière artificielle de passer aux 35 heures. Ou bien parce que, pour beaucoup de salariés, le passage aux 35 heures a consisté à faire le même travail dans moins de temps. Donc, ça s'est traduit par une intensification très importante du travail. Donc, ce que suggère l'exemple des 35 heures, c'est que non seulement les négociations et donc l'application des lois est très inégale en fonction des entreprises, parce qu'elle s'applique avant tout là où il y a des organisations syndicales qui s'en emparent et qui imposent que des négociations soient organisées sur les thèmes suggérés par le gouvernement. Mais ce que suggère l'exemple des 35 heures, c'est que le développement de la négociation collective, loin de servir nécessairement les intérêts des salariés, peut au contraire avant tout servir les intérêts des employeurs. Et que dans nombre d'entreprises, l'objectif initial de la loi des 35 heures qui consistait à réduire le temps de travail pour créer des emplois a été complètement contourné par les employeurs et la réduction du temps de travail n'a pas tant servi à créer des emplois qu'à augmenter la rentabilité, la productivité du travail. Premier point. Et que ça veut dire concrètement que le développement de la négociation collective d'entreprise sous certains aspects ne fait qu'aggraver les inégalités sociales entre travailleurs. Puisque ceux qui sont les moins organisés syndicalement sont ceux qui généralement déjà bénéficient des conditions de travail et de rémunération les moins favorables et qui, à la faveur du développement de la négociation collective, ont le plus à perdre de la mise en œuvre de ce nouveau modèle d'action publique. Et que concrètement, donc, ça veut dire que ce développement tel qu'il s'opère, dans les conditions juridiques et sociales dans lesquelles il s'opère actuellement, le développement de la négociation collective, sous certains aspects, se traduit par une aggravation donc, et par une inégalité des salariés devant la loi. Alors, pour terminer, pour être plus complet aussi, analyser les usages patronaux et gouvernementaux de la négociation amène aussi à souligner que dans certaines configurations, l'investissement de la négociation par le gouvernement ou par le patronat sert moins à créer les conditions d'un dialogue avec les organisations syndicales qu'à contourner les organisations syndicales, ou en tout cas qu'à trouver de nouvelles ressources pour domestiquer, neutraliser la contestation syndicale. On le voit par exemple sur la réforme des retraites. Donc la réforme des retraites, en vertu de l'application de la loi de 2007 que j'évoquais précédemment, a dû passer par une première phase de concertation, dite de concertation avec les partenaires sociaux. On a bien vu dans cette configuration que malgré l'opposition unanime, et c'est assez rare pour le souligner, de l'ensemble des organisations donc syndicales de salariés, le gouvernement a néanmoins parfaitement mis en place le projet qui était le sien, et que cette phase de concertation n'a servi qu'à délégitimer la contestation syndicale en disant il y a eu le temps de la négociation, il y a eu le temps de la discussion, maintenant c'est terminé, nous vous avons écouté, maintenant il faut que le projet se mette en œuvre. Et puis au niveau des entreprises, bon, j'ai eu l'occasion d'assister à des stages de formation pour les DRH où on leur enseigne tout un ensemble de techniques de négociation qui visent donc encore une fois pas du tout à créer le dialogue mais plutôt à contourner les syndicats, donc par exemple en leur disant surtout n'hésitez pas à multiplier les réunions de négociation avec vos interlocuteurs syndicaux, il vaut mieux les avoir dans vos bureaux qu'ils traînent plutôt dans les ateliers. Hein, et puis de les voir fréquemment, comme ça, ça va vous permettre de vous apprivoiser, de vous connaître, de créer des relations de confiance, etc. Et lorsque vous entendez parler beaucoup de syndicalistes, bon, tous ne sont pas dupes, mais tous vous disent, bon, c'est vrai qu'on passe beaucoup plus de temps avec les directions aujourd'hui que dans les ateliers avec les salariés, parce que la direction nous convoque tout le temps, et que bon, en même temps, il faut bien y aller, etc. Donc il y a une tension permanente, la difficulté, quoi, à être à la fois dans les institutions et dans le terrain, même si, hein, je l'ai bien dit, ceux qui négocient le plus sont aussi ceux qui quand même mobilisent le plus. Et puis, bon, deuxième, entre guillemets, conseil qui est donné à ces DRH, eh bien, c'est d'utiliser la négociation comme une manière de mettre en forme la décision de la direction qui la rend, un, juridiquement inattaquable, et deux, plus difficilement contestable par les syndicats parce qu'elle va donner les gages qu'il y a eu du dialogue social dans l'entreprise. Et en particulier, on leur dit, quand vous arrivez en négociation, préparez toujours deux ou trois scénarios. Hein. Vous arrivez d'abord avec un projet très dur, entre guillemets, et puis vous faites semblant de faire des concessions qu'en fait vous avez complètement anticipées, mais dans le cours des négociations, vous lâchez deux, trois choses, etc. Mais donc vous n'annoncez jamais vos objectifs réels dès le début. Vous allez beaucoup plus loin au début pour ensuite donner le sentiment que vous avez fait des concessions et comme ça, de telle manière que vous pouvez légitimer davantage votre décision auprès des salariés et donc rendre plus difficile la mobilisation de ces derniers. Voilà. Bon. Alors évidemment, on pourrait dire qu'il y a des aspects positifs dans ces réformes, et je terminerai là en quelques minutes, mais sous l'aspect en particulier que j'évoquais sur la modification des règles, des conditions de validation des accords. Hein, le fait, je pense que là, la plupart des organisations syndicales approuvent cela, c'est-à-dire le fait que l'accord ne puisse pas être validé uniquement par la signature d'un syndicat ultra-minoritaire, comme c'était quand même souvent le cas dans bon nombre de secteurs professionnels. Ceci étant dit, il ne faut pas non plus perdre de vue que pour autant, cette évolution-là des règles juridiques ne suffit pas à garantir, entre guillemets, une bonne démocratie sociale. D'une part parce que asseoir la représentativité des syndicats sur une question électorale occulte complètement le fait que dans beaucoup d'entreprises, les élections professionnelles s'opèrent sur le fond d'une très forte dépendance des salariés vis-à-vis de leur employeur, je pense en particulier dans les petites entreprises. Hein. Donc on n'est pas du tout dans le modèle d'élections libres, etc., comme on pourrait naïvement un peu le croire. Et puis deuxièmement, surtout, ce que je veux dire, c'est que la propension à signer des accords très importante, hein, que j'évoquais précédemment, par les organisations syndicales, elle s'explique aussi par le fait que la négociation s'opère sous de très fortes contraintes. Alors si on prend les négociations interprofessionnelles et une des dernières propositions du président candidat ou du candidat président sur les accords compétitivité en particulier qu'il voudrait développer dans les entreprises, hein, donc qui consiste en gros à accepter de baisser les salaires, de mettre fin en gros aux 35 heures en échange du maintien de l'emploi. Bon, il a clairement dit, si les accords ne sont pas signés dans les entreprises, je passerai par la loi. Donc il y a d'abord une forme de chantage politique permanente. Sur les retraites, c'est exactement la même chose. S'il n'y a pas d'accord entre le patronat et le syndicat, je contourne et je passe par le Parlement. Et puis dans les entreprises, ce que l'on voit surgir de plus en plus, c'est que les négociations salariales ou les négociations d'adaptation de l'organisation du travail se font de plus en plus sous le spectre du chantage à l'emploi. Il y a eu des cas emblématiques, Goodyear, etc., mais dans beaucoup d'autres endroits, hein, où on somme les organisations syndicales de signer ces accords en leur brandissant sinon la menace qu'on délocalise, qu'on restructure et qu'on ferme un certain nombre d'emplois. Donc dans ces conditions-là, il est quand même difficile de parler d'autonomie des partenaires sociaux. Donc en deux mots de conclusion, il ne s'agit pas... De évidemment jeter aux orties le principe de la négociation collective, hein, mais simplement d'attirer l'attention sur le fait qu'en soi, elle n'est pas vertueuse, qu'en soi, elle ne garantit pas un progrès social pour les salariés, et qu'en tout état de cause, le développement de la négociation collective ne peut produire produire des effets garantir, enfin des effets positifs pour les salariés qu'à la condition de rester soumise à une loi qui garantit un filet de sécurité minimal à l'ensemble des salariés, et surtout que le développement d'une véritable démocratie sociale implique l'établissement de droits pour les représentants du personnel. Je pense en particulier dans une instance comme le comité d'entreprise. Hein, la possibilité, aujourd'hui, le comité d'entreprise est simplement une instance consultative qui doit se prononcer pour ou contre, par exemple, un PSE. Mais une fois qu'il a donné son avis, la direction fait absolument ce qu'elle veut. L'un des principaux déficits en matière de démocratie sociale dans les entreprises aujourd'hui, c'est l'absence de droit permettant concrètement, sur un plan juridique, aux représentants du personnel de bloquer certaines décisions des employeurs. Je vous remercie.
La parole est à la salle pour des questions.
Oui.
Non, moi, j'ai pas de réponse toute faite. C'est les deux principales pistes que j'ai données en conclusion. Hein. C'est-à-dire que moi, je pense que l'un des effets les plus délétères, c'est d'avoir fait de la négociation, enfin de vouloir faire de la négociation, un outil pour adapter l'application de la loi en fonction des entreprises. C'est de ne pas renoncer au fait que la loi doit être contraignante, c'est-à-dire qu'elle doit imposer des contraintes et qu'en particulier l'incitation à la négociation par des dispositifs financiers, un, est très, très, faible, très faiblement productif, deux, excessivement coûteux. Cette idée qu'on sera plus efficace en incitant plutôt qu'en contraignant, à mon avis, est très fortement contredit par l'observation des faits. Puis le deuxième aspect, c'est le renforcement des droits des institutions représentatives du personnel. C'est vrai pour les CE, mais on pourrait élargir pour les CHSCT et les EDP. Hein. Le renforcement, oui. En termes de droits, quoi.
Donc je dis, je reprends zéro. Donc, votre analyse est très bonne. Et j'ai demandé parce que c'est la deuxième fois. J'ai perdu le fil. Donc, je voulais savoir quelles lois ou quel cortège de lois doivent être votées. Et est-ce que vous pourriez les mettre en forme dans la mesure où ça serait éventuellement écouté par quelqu'un qui aurait la possibilité de le faire ça, et d'éviter tous les effets pervers dont vous avez parlé, que la loi est pleine de bonne volonté, mais d'aller détourner et tout ça, toutes ces choses à solidifier, à stabiliser. Voilà.
Bah, personnellement, c'est vrai, enfin, en tant que chercheur, même si chercheur engagé, l'objectif, c'est surtout de provoquer le débat, d'amener à réfléchir. Donc, moi, je ne suis pas technicien, donc je peux suggérer des voies, mais ceci étant, il y a quand même beaucoup de militants syndicaux, de militants politiques, de dirigeants politiques qui réfléchissent à ces questions et qui proposent déjà des éléments. Oui, oui.
Peut-être pour avancer dans la discussion... Je peux me faire l'avocat du diable, mais pas tout à fait du diable, en fait, mais me placer d'un autre point de vue. Alors c'est vrai que la gauche a beaucoup contribué aussi à ces évolutions-là, mais parfois en raison de traditions qui voulaient développer les droits, précisément, dans les entreprises. Et ces droits se sont en quelque sorte retournés, je pense, aux lois Auroux, dans les années 80... Le Premier ministre du Travail de Mitterrand avait donc créé des lois qui permettaient normalement d'investir le champ de la négociation d'entreprise, mais pour apporter la voix des salariés dans le fonctionnement de l'entreprise, renforcer en quelque sorte le poids de la parole des salariés dans le fonctionnement de l'entreprise. Les lois Auroux ont été critiquées, mais en fait absorbées souvent par le patronat parce que c'était aussi la période où on réfléchissait dans les entreprises à l'introduction du management participatif, au cercle de qualité, etc. Et donc, dans le contexte des années 80, en tout cas, ces lois ont été digérées, en quelque sorte. De la même manière, par rapport aux exemples que tu as pris, la loi sur les 35 heures, elle a procédé de la même méthode, pas que celle-là, mais que celle que tu décrivais à l'instant, à savoir qu'on a dit « négocier ». Et si vous ne vous entendez pas, c'est la loi qui imposera les 35 heures, ce qui s'est fait finalement, et on a décrit Martine Aubry comme une espèce de petit tyran, d'autant plus choquant que c'était une femme. Mais en tout cas, la question que je veux poser, moi, c'est celle des nouveaux droits. Alors, tu as dit justement développer les droits des... C'est pour ça que ça m'intéressait, renforcer les prérogatives des CHSCT et des comités d'entreprise, donc sur le champ de... des conditions de travail et de la santé au travail et sur le champ des finalités de l'entreprise. Normalement, c'était ça, les comités d'entreprise à l'origine. Même à la libération, les comités d'entreprise étaient vus comme un outil de démocratisation de l'entreprise avant que les comités d'entreprise s'occupent des œuvres sociales, d'écolo, etc., etc. Mais c'était d'abord vu comme ça. Et dans moi, je n'ai pas les mesures en tête, mais toi, tu pourras nous le dire, mais dans les mesures ont été prises dans les 15 dernières années. Il y a aussi une extension relative des comités d'entreprise sur les questions économiques de restructuration, mais c'est d'un poids consultatif, c'est ça, essentiellement. Bref, malgré tout, si on veut renverser et pas simplement être sur une position défensive de dire oh, c'est la loi qui doit défendre, etc., mais il faut reconquérir l'espace de l'entreprise et aller vers une émancipation des travailleurs par la reconquête et par l'appropriation sociale, en fait, hein, par l'appropriation des entreprises, comment on fait, quoi ? C'est pas la loi. La loi peut les dicter, mais après, quelles mesures législatives on prend pour que ces droits existent dans les entreprises ? Ça pose quand même la question de l'évolution de ces structures. On peut prendre le cas des mesures qui sont annoncées dans les programmes, dans une partie des programmes de gauche, à savoir l'intervention sur les licenciements, sur les plans de licenciement. Donc je ne sais pas quels sont les détails des mesures qui sont prévues en la matière, mais il s'agit bien de nouveaux droits, hein, des travailleurs pour pouvoir s'opposer à des licenciements qui seraient uniquement motivés par des motifs boursiers, enfin en tout cas pour satisfaire les actionnaires. Voilà, donc je ne sais pas, est-ce que le repli sur la loi, et c'est-à-dire sur la réglementation du travail par la loi, est la seule mesure à prendre, ou bien est-ce qu'il faut, par la loi, créer malgré tout des nouveaux espaces et d'appropriation, de pouvoir pour les salariés sur l'entreprise, qui concernent à la fois les conditions de travail, les licenciements éventuellement, enfin la politique de l'emploi, voire l'intervention sur les finalités du travail, puisque quand on essaye de réfléchir, par exemple, avec les associations écolos, etc., une des questions qui se posent, c'est comment les salariés eux-mêmes peuvent intervenir dans le nucléaire ou dans production polluante, etc., pour, à partir de leur expertise propre, intervenir pour aller dans le sens d'une orientation de la production elle-même, du contrôle, en tout cas, de l'utilité sociale de la production. Bon, la question est un peu large, mais c'était pour justement pour élargir un peu.
Moi, j'avais une question par rapport aux personnalités, les personnes à mobilité réduite, en fait. Quelles sont les négociations pour elles dans les conditions de travail, leur... point de vue administratif aussi.
L'économie sociale et solidaire se propose justement d'avoir une gestion plus démocratique et de mettre en place des négociations qui seraient plus vertueuses, comme vous disiez. Est-ce que vous avez pu observer justement que même dans ce milieu-là, l'idée de négociation était un peu une illusion, que c'était parfois malmené, ou qu'au contraire, c'était un domaine où il y avait certaines expérimentations ou des avancées qui pouvaient être intéressantes?
N'hésitez pas à ne pas poser des questions, mais à donner votre avis sur les sujets.
Moi, du coup, pour rejoindre l'idée de la démocratisation et de se réapproprier l'espace de l'entreprise, je voulais savoir un peu quelle place on pouvait donner aux coopératives, aux gestions collectives, du coup, directes par les entreprises du type LIP, ou quelle place ça pouvait prendre et quel espoir il y avait, et sous quelle forme l'encouragement pouvait venir, et du coup la place de la législation là-dedans, puisqu'il me semble que du coup ça viendrait pas directement de la loi, mais sous quelle forme est-ce que ça peut être encouragé de différentes manières, et si c'est souhaitable déjà pour vous.
Deux dernières.
Moi, je suis surpris par la fréquence de l'utilisation par les intervenants comme par les gens qui posent des questions, de l'utilisation de droite et gauche, qui pour moi sont des termes de désinformation, puisque ça vient des origines de l'Assemblée. Silence, la droite, la parole est à la gauche, etc. Et maintenant, la politique se droitise largement. Ce qu'on appelle des partis de gauche, on peut les sentir à droite. Donc je considère que ça n'a plus aucune légitimité, et donc je suis surpris d'entendre ici autant de gens parler de droite et de gauche. Voilà.
Moi, je voulais donner une précision par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la loi de 2007, hein, déjà en 2007 par rapport au DRH qui privilégiait les négociations auprès des syndicats. En tant que salariée, je suis soignante de formation, donc dans le domaine hospitalier. Déjà en 2004, il y avait des grandes interdictions au niveau des syndicats de se promener dans les couloirs pour aller interroger les salariés, et notamment dans les blocs opératoires, parce que moi j'ai travaillé dans les blocs opératoires, où il était absolument interdit de venir interroger les employés pour venir pour avoir leur avis, c'est ça. Et d'autre part, effectivement, vers les années 2000 à 2000, parce que moi j'ai arrêté en 2006, de 2000 à 2006, il y a eu énormément de prises de rendez-vous beaucoup plus réguliers au niveau des syndicats et des RH. Et l'ampleur du management qui est devenu extrêmement... qui a pris un rôle il a pris le rôle du syndicaliste, c'est-à-dire vous venez me voir, je suis toujours disponible et je vais pouvoir régler votre problème en amont. Et voilà, donc il y avait déjà depuis les années 2000, à partir de 2000, une volonté de management qui devenait très, très régulateur.
Je dis juste un mot sur droite et gauche. C'est pour mémoire, hein, c'est pour situer, c'est paysager comme notion, c'est une notion en usage. Cela étant dit, on peut discuter du fond et revenir à un des mots d'ordre de l'association Raison d'agir qui était... pour une gauche de gauche. C'est-à-dire qu'on peut redéfinir les termes aussi en termes de contenu. Et voilà, mais c'est juste pour ouvrir la discussion. Ce n'est pas un sujet tabou, en tout cas.
J'avais bien parlé de la gauche parlementaire, dite gouvernementale, pour essayer de préciser. Je vais peut-être juste rebondir sur ce que je maîtrise le mieux, ce que vous avez dit. Alors peut-être que dans l'hôpital, ça s'est traduit qu'au début des années 2000, mais cette idée du management, ce qu'ils appellent dans le jargon le management participatif et direct, qui a pour objectif de court-circuiter en fait le canal syndical, avec l'idée que c'est la hiérarchie doit se montrer disponible, etc., pour que les réclamations du personnel, les réclamations individuelles se fassent directement auprès de la hiérarchie et de telle manière à individualiser en gros le traitement des plaintes, des problèmes des salariés, et éviter que les syndicats s'en emparent, les collectivisent et en fassent un support à la mobilisation collective des salariés. Ça a été théorisé, je dirais, dès les années 70, ce qu'a évoqué Bertrand tout à l'heure, hein, le management participatif et ce qu'on a appelé la gestion concurrentielle du social par le patronat. Alors peut-être que ça s'est, ça s'est étendu progressivement, mais en tout cas, ça fait longtemps, en tout cas, que c'est conçu comme un instrument de contournement du syndicat. Et du coup, ça, effectivement, tu disais que la NAO ont été bien digérées par le patronat. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était plutôt le patronat qui était très hostile à l'introduction des NAO et les syndicats qui ont vu un progrès. Et on peut dire qu'avec le temps, les positions sont quasiment presque inversées. C'est-à-dire que moi, j'avais des syndicalistes. Négociation annuelle obligatoire. L'obligation de négocier sur les salaires et les conditions de travail une fois par an, les lois au groupe. Voilà, avec les groupes d'expression, etc. Et puis les lois roux, enfin, il y a quand même des grands progrès avec les lois roux, les CHSCT aussi, qui ont retrouvé beaucoup de prérogatives supplémentaires, qui ont vraiment véritablement pris corps à ce moment-là. Mais quand même, dans les années 80, ce qui a aidé, entre guillemets, la digestion patronale de cette nouvelle loi, c'est que le gouvernement, en échange, a concédé la possibilité de premiers accords dérogatoires d'entreprise sur les questions de conditions de travail. C'est un des éléments qui a été amené pour calmer, entre guillemets, le courroux patronal. Et puis, ce que disent beaucoup de syndicalistes avec un peu d'amertume, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a en gros 30 à 40% des entreprises, mais il n'y a pas de négociations qui sont organisées. Hein. Mais ça renvoie à tout le déficit aussi de quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, la faiblesse de l'inspection du travail, qui n'est absolument pas en mesure de contrôler ce qui se passe dans toutes les entreprises, et encore moins là où il n'y a pas de représentants du personnel qui font appel, qui alertent l'inspection du travail. Bon, toujours est-il qu'avec beaucoup d'amertume, ils disent au début, les patrons sont plutôt réticents à organiser les négociations. Puis lorsqu'ils voient ce que ça donne, c'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont rien à craindre parce qu'on est de façon trop faible pour les embêter. Bon, bah, finalement, ils le font, ils se mettent en conformité avec la loi et puis ça ne leur coûte rien. Il me semblait... sur les questions de la mobilité réduite, alors moi, je ne connais pas la question particulièrement. Simplement, ça fait partie de ces... pleinement de ces domaines d'action où les gouvernements successifs, encore une fois, hein, donc pour être clair, socialistes ou UMP, qui se sont succédés ces 10-15 dernières années, refusent d'intervenir par des lois contraignantes. Hein, ça fait partie de ces domaines où on dit que ça ne sert à rien de passer par la contrainte et de pénaliser financièrement les entreprises qui ne respecteraient pas la mise aux normes ou l'emploi en particulier. Donc là, je ne connais pas les seuils hein, légaux, mais donc il y a un seuil. Chaque entreprise, au-delà de tant de salariés, doit avoir X% de salariés à mobilité réduite. Ce que l'on sait, c'est que je pense 90% des entreprises ne respectent pas ces objectifs. Hein. Donc il y a des services spécialisés de l'inspection du travail ou de la CRAM, ça dépend des endroits, qui ont pour mission d'aller auprès des employeurs pour les convaincre du bienfait, etc., de ce que ça peut leur apporter. Alors en termes d'exonération des charges sociales, puis en termes d'image de l'entreprise, pour essayer de les convaincre, tant bien que mal, d'embaucher des personnes à mobilité réduite, mais ça ne passe que par l'incitation. Hein, on ne peut pas y avoir de PV. Et quand vous discutez avec les inspecteurs du travail qui font cela, ils disent de toute façon, ça serait contre-productif de leur point de vue de dresser des PV, parce que ça braquerait les entreprises plus que ça. Donc il est préférable d'essayer de dialoguer, etc., pour les amener. Donc c'est typiquement le domaine... Le genre de domaine d'action où on joue sur l'incitation plus et sur la négociation plus que sur la loi contraignante. Alors, ce qui me permet de rebondir, effectivement, tu as mieux dit ce que j'essaie de dire, c'est que là, je ne pense pas qu'il soit bon que la loi prévoit tout, réglemente tout, mais la loi peut être un moyen, en tout cas, d'assurer un filet de sécurité. Ça, je pense que c'est quand même indispensable. Surtout, créer de nouveaux droits pour les... Pour le CE en particulier, alors vous parliez de la coopérative. Bon, il y a beaucoup. La semaine dernière, donc je suis enseignant à Aix-Marseille, donc nous sommes allés avec des collègues visiter les salariés en lutte de Fralib, donc c'est à côté de Marseille, c'est la fabrication de thé Lipton et Elephant, qui est une entreprise qui appartient au groupe Unilever, qui fait des milliards d'euros, de dollars de bénéfices, et qui veulent fermer cette entreprise, qui est parfaitement rentable. Mais qui n'est pas assez rentable au regard des critères de rentabilité exigés par l'actionnaire, qui demande 15% de rentabilité par an. L'entreprise est à 4,5, donc ce qui est déjà beaucoup. Ils en sont à 518, alors la semaine dernière, donc il faut faire plus de 725 jours de lutte. Et l'un des objectifs, et il y en a beaucoup d'autres, c'est pas par centaines, mais je connais d'autres luttes où l'un des objectifs des salariés, c'est de racheter l'entreprise et de s'organiser en coopérative. Et donc, ça fait directement le lien avec ce que tu disais, Bertrand. Moi, je pense que l'un des droits, et la gauche alternative ou la gauche de gauche le propose d'ailleurs, c'est le droit de préemption. C'est que dans ce type de configuration, c'est-à-dire donner la possibilité aux salariés de s'approprier l'outil de production pour s'organiser ensuite et continuer la production. Et ce qui est intéressant dans ce conflit, c'est qu'il fait parfaitement la jonction entre la question du maintien de l'emploi et la question de la qualité du travail et de la finalité du travail. Pour le dire vite, avec l'arrivée du groupe Unilever qui a acheté cette entreprise qui a plus d'un siècle d'existence il y a 15 ans, ils ont modifié complètement le process de fabrication en introduisant des arômes complètement artificiels. Et l'un des objectifs de ces salariés, c'est en reprenant le contrôle de la production, c'est de rétablir des process artisanaux, en tout cas avec des produits locaux, filières courtes, etc. etc. Mais je pourrais citer un autre conflit que j'avais suivi il y a plus longtemps, c'était dans le cadre de ma thèse, d'une papeterie proche de Douai, qui fermait deux des trois machines, 500 licenciements sur 900 ouvriers, une entreprise rentable, mais pas assez au niveau du groupe finlandais, où les salariés avaient eux aussi mis en place un projet industriel de reprise, ils avaient trouvé les financements, mais à quoi se heurtait-il la volonté de l'entreprise de ne pas vendre, on ne demandait même pas céder, de ne pas vendre les machines. Et donc, elle a refusé de vendre des machines, donc le projet a capoté. Et lui aussi faisait le lien avec des préoccupations environnementales parce qu'il voulait se lancer dans de la fabrication de papier recyclable à base de chanvre, donc avec l'idée de faire des circuits locaux, là aussi, avec l'agriculture locale, etc., etc. Donc là, je pense que concrètement, il y a aussi Nestlé à Marseille, enfin, il y a pas mal d'entreprises où les salariés qui sont sous la menace d'un licenciement alors qu'ils travaillent dans une entreprise rentable, souhaiteraient reprendre, se réapproprier l'outil de production, et ils sont empêchés par la loi. Parce qu'on ne peut pas forcer l'employeur à céder ou même à vendre ses machines, et que pour des postures purement idéologiques, les employeurs refusent de vendre l'outil de travail. Donc voilà, je pense que ça, c'est un des éléments. Alors après, moi, je ne suis pas juriste, mais je pense qu'il y en aurait beaucoup d'autres à explorer. Mais voilà, un des éléments qui, au moins dans certaines situations dramatiques pour l'emploi, pourrait changer concrètement la donne. En revanche, moi, par exemple, je serais plus hostile, alors c'est vraiment à titre personnel, mais à l'ouverture de nouveaux lieux de négociation ou de discussion, je pense qu'il y en a déjà beaucoup, peut-être beaucoup trop, que dans l'état actuel du syndicalisme français, c'est-à-dire très faible, ça les amène déjà à s'éparpiller, donc ça augmenterait l'institutionnalisation, la segmentation. Et quand on discute d'ailleurs avec les organisations syndicales, pour la plupart, ce n'est pas du tout ce qu'elles demandent, parce qu'ils ont déjà le sentiment d'être complètement happés par l'institutionnel. En revanche, ce qu'ils disent tous, c'est qu'ils veulent des pouvoirs de contrainte à leur disposition dans ces institutions représentatives du personnel, pour ne pas être simplement une caution ou faire la figuration. Et sur la question de l'économie sociale et solidaire, alors moi, je n'ai pas travaillé spécifiquement là-dessus, mais il y a beaucoup de sociologues qui ont travaillé, Mathieu Elie, par exemple, si ça vous intéresse, ou Maud Simonet. J'ai envie de dire, hélas, ce qu'ils mettent en évidence, c'est que le modèle de relations sociales est l'un des pires qui existe dans l'ESS, c'est-à-dire très faible structuration des organisations de salariés, de la représentation des salariés. Les conditions de salaire sont parmi les plus faibles. À travail égal, à qualification égale, on gagne 18% de moins dans le secteur de l'économie sociale et solidaire que dans le secteur de l'économie marchande. Et alors, il y a eu quelques premiers conflits au SAMU social à Paris, il y a un ou deux ans. Alors, des conflits qui portent sur la question salariale, mais pas simplement sur les questions. Ce qui a cristallisé ces conflits, c'est la baisse des subventions publiques et la mobilisation des salariés contre le sentiment d'être, pour reprendre le terme d'Yves Clos, qui a pas mal travaillé sur son travail, d'être empêchés de bien faire leur travail. Le sentiment de ne plus avoir les moyens, le temps de s'occuper des gens, de s'en occuper de bonne manière. Mais bon, ce que montrent ces travaux, c'est que, dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire est fondé sur une ambivalence profonde entre, on s'engage, enfin, entre le fait d'être, d'être pensé comme le prolongement d'un engagement militant et comme un travail comme un autre. Hein, et donc il y a toujours cette mauvaise conscience entre guillemets à revendiquer des bonnes conditions de travail ou des bons salaires de la part d'une forme d'inhibition de la part des salariés parce qu'on se dit qu'on travaille là, qu'on travaille dans le secteur social pas pour l'argent, hein, et donc entre guillemets les relations sociales se structurent voilà, sur cette ambivalence là qui explique en grande partie la faiblesse des salaires, des conditions de travail et la très faible structuration collective des relations sociales dans ce secteur.
J'ai trouvé très intéressant les exemples d'entreprises ou genre dans Douai, Chachou, dont vous avez parlé. Oui, il y a peut-être quand même des lois au moins pour permettre la reprise de ces choses-là hein, en gardant le travail et les intérêts qui y sont liés. Parce que si on laisse faire ce genre de choses sans décider de lois qui arrêteront les abus, on est mal parti, quoi.
Quand vous parliez de restructuration, enfin de nouveaux lieux pour les négociations avec les syndicats, est-ce que vous entendiez dans ce que vous vouliez dire si le visage du syndicaliste ou du syndicat est à revoir ou revisiter ou est-ce qu'il est désuet ou en progression ?
Je sais pas, il me semble que dans ton exposé, tu as donné un certain nombre de pistes sur ce qu'on pouvait faire. Et une des choses que tu as mentionnées, c'était le fait que les organes représentatifs qui ne sont plus que consultatifs pourraient avoir effectivement un poids. Je pense effectivement au comité hygiène et sécurité au travail. Il y a un véritable épuisement des syndicalistes à aller dans ces réunions. Alors, je ne connais pas trop le secteur privé, mais dans le secteur public, par exemple à l'université avec les CHSCT, la création des CTP, etc., on s'épuise à aller dans des réunions dont on sait pertinemment qu'il ne va rien sortir. C'est-à-dire qu'on peut avoir la majorité absolue, l'unanimité contre quelque chose. Donc peut-être que ça, c'est déjà une piste, hein, en plus du cadrage de la loi, etc., de redonner un caractère décisionnel à ces institutions, à ces organismes purement consultatifs.
Je rajoute une question sur les SCOP, pour les défendre un peu plus quand même. Est-ce que ce n'est pas lié aussi à la situation objective qui est celle des SCOP aujourd'hui, c'est-à-dire des secteurs qui précisément souvent sont des secteurs abandonnés ou en crise ou des entreprises qui ferment, qui sont reprises ou voilà. Et puis après il y a tout un autre pan qui concerne le travail social où là on est plus dans des ambivalences de délégation de services publics ou parce qu'il y a ça dans l'économie sociale et solidaire, il n'y a pas que les SCOP, donc il y a tout ce pan-là associatif.
Je pensais surtout à ça d'ailleurs.
Voilà, il semblait. Et alors que les entreprises de production qui auraient les moyens de se développer sur des nouveaux secteurs qui peuvent créer leur rentabilité et en même temps sur un nouveau modèle à la fois de circuit économique et de relations sociales, est-ce que c'est complètement impensable ? Je ne sais pas si tu as la réponse, mais en tout cas, au moins, est-ce qu'on ne raisonne pas toujours par rapport à ce que sont les SCOP ou l'économie sociale aujourd'hui, et est-ce qu'il n'y a pas à réfléchir sur les soutiens qui pourraient être apportés à des initiatives nouvelles en la matière ?
Sur les deux exposés qu'on a eus hier soir, on a vu qu'il y avait dans le printemps arabe comme dans le mouvement de Los Indignados une dépolitisation massive. Avant, parce qu'il n'y avait plus de confiance dans les partis politiques, avant la révolte, avant une révolte forte. est-ce qu'on ne peut pas espérer que la désyndicalisation mène au même type de mouvement ?
Que la désyndicalisation mène à une révolte forte ? C'est bon, j'y vais. Bon, sur les scopes, donc tu as raison. Bon, moi j'ai bien dit, j'ai pas travaillé dans mes travaux sur l'économie sociale et solidaire, c'est parce que maintenant que j'interviens dans un master sur l'économie sociale et solidaire, je me suis intéressé à ces choses-là. Donc effectivement, dans ma réponse, je pensais avant tout aux travailleurs sociaux, etc., qui vivent, mais eux aussi sous des contraintes objectives, hein, la base des subventions, etc., et toute l'instrumentalisation ambivalente de la part du politique, et comme tu l'as dit, une forme de délégation de service public déguisée, qui est une moyen de faire du travail à moins cher, quoi, que si elle était faite par l'État, et donc sur les scopes, mais après j'imagine que les scopes représentent quand même, sont moins importantes encore du point de vue de leur développement dans l'économie sociale et solidaire, mais donc il y aura certainement beaucoup de choses à imaginer, mais là ça dépasse le cadre de mes compétences. Sur les CHSCT, je rebondis juste pour dire, effectivement, en fait, bon, je pense qu'il ne faut pas tordre le bâton dans le sens, dire qu'elles ne servent à rien aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai beaucoup insisté là-dessus sur le fait qu'elles n'avaient pas de pouvoir contraignant, et parce qu'on nous parle aussi, par exemple, beaucoup du modèle social allemand comme l'exemple à suivre. Bon, l'équivalent, ne me demandez pas de le dire en allemand, j'y arrive jamais, mais des comités d'entreprise en Allemagne, ils ont des pouvoirs de blocage. Très concrets que n'ont absolument pas les comités d'entreprise. Et donc, c'est vrai que l'usage syndical de ces comités d'entreprise ou de ces CHSCT, au-delà d'assurer une forme de présence institutionnelle, et là il faut aussi voir tout le jeu de la concurrence syndicale, hein. Qu'est-ce qui fait que les militants s'investissent, c'est que moi si j'y vais pas, le concurrent y va, donc il faut que j'y sois. Il y a aussi beaucoup de ça qui joue, parce qu'il y a quand même peu d'endroits où il y a une seule organisation syndicale, et dans beaucoup d'entreprises c'est un des moteurs de l'action institutionnelle, c'est le jeu de la rivalité, et dans ce délect évidemment l'employeur, parce que une des techniques aussi enseignées au DRH dans les négociations, c'est jouer de la division syndicale, isoler les plus contestataires, conforter d'autres pour en faire des interlocuteurs uniques, etc., etc. Mais autrement, l'autre usage donc, syndical, c'est gagner du temps. Hein, donc, je n'avais pas répondu à une de tes questions, mais les CE ont gagné la possibilité de faire appel à des droits d'alerte, et que le recours à l'expertise est quand même considérablement développé dans les CE, ce qui est en train, de mon point de vue, de se produire que maintenant dans les CHSCT. Et que la question, alors là on engage une recherche collective, je pourrais vous en parler peut-être dans un ou deux ans, sur la question des négociations autour des risques psychosociaux en entreprise, qui fait partie d'un des domaines d'action où le gouvernement incite à négocier, et qui semble être un point d'appui au développement, en tout cas au renforcement de l'utilisation par les syndicats d'une instance CHSCT qui apparaissait quand même secondaire dans l'ordre des priorités militantes par rapport au CE. Sur la question est-ce que l'indésyndicalisation peut aboutir à un vote, alors moi je ne crois pas du tout, je crois que c'est même plutôt le contraire, il n'y a rien à attendre de bon d'une désyndicalisation. Bon, déjà elle est suffisamment faible, donc plus faible que ça, ça me paraît difficile à imaginer, surtout dans le secteur privé. Et surtout, plus sérieusement, un élément quand même important à savoir, hein, c'est que les conflits collectifs, les conflits en entreprise existent là où sont présents les syndicats. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de conflit. Un collectif, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résistance individuelle à l'employeur, etc. Mais les organisations syndicales, malgré tous leurs défauts, leurs insuffisances, leurs divisions, tout ce qu'on voudra, constituent encore aujourd'hui le point d'appui organisationnel, si ce n'est exclusif, en tout cas très, très indispensable à l'organisation de l'action collective des salariés. Et puis, bon, sur la question de la politisation, c'est plus après le problème du rapport aux politiques. Est-ce que dans la période actuelle, on n'est pas en train d'assister à un petit changement ? Bon, c'est un peu trop tôt pour le dire. Ce qui a caractérisé le champ syndical français, c'est une dépolitisation au sens d'une déconnexion de l'action syndicale de l'action politique, qui a été surtout spectaculaire pour la CGT, mais qui a concerné l'ensemble des organisations syndicales. Bon, dans la période actuelle, on semble assister à un rapprochement d'une partie, parce que là aussi, ça n'a pas de sens de parler de... Enfin, il y a de multiples syndicats, quoi, à l'intérieur de la CGT, comme de la CFDT, comme de FO. Il y a des profils militants extrêmement hétérogènes qui cohabitent, etc. Donc, il me semble que dans la période actuelle, on assiste à une forme de rapprochement, de réinvestissement, en tout cas, du champ politique par les organisations syndicales qu'elles avaient quittées au cours de ces 20 dernières années. Et sur la question du visage, du paysage syndical, est-ce qu'il m'apparaît désuet ou en progression? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les syndicats ont stoppé l'hémorragie militante qu'ils avaient connue dans les années 90. Donc, il y a une stabilisation des effectifs depuis le début des années 2000. Stabilisation, mais incapacité à gagner, alors pas de nouveaux adhérents, en tout cas à augmenter leurs effectifs. Parce que ce qu'il faut savoir quand même des syndicats, c'est que c'est des passoires. Hein. En gros, il y a un turnover de 30% des adhérents toutes les 5 ans. Là aussi, un bon mot d'un syndicaliste que j'avais rencontré, c'est de me dire la difficulté qu'on a, c'est pas de faire des adhérents, c'est de les garder.
Par rapport à la culture syndicale, est-ce que véritablement cette culture est toujours aussi bien, elle est toujours impliquée ou elle est
apprise
sur le tas?
Oui, oui, mais il y a un enjeu majeur. Alors, du point de vue de la culture syndicale, en gros, c'est la transmission et le renouvellement des générations, parce que toutes organisations syndicales, bon, peut-être Sud, mais bon, qui est quand même petit, et toutes les grandes organisations du point de vue des effectifs vont devoir affronter un défi majeur qui est le départ de nombreux de leurs cadres, surtout. Je pense que c'est un des éléments d'ailleurs qui explique l'évolution par rapport dans le rapport aux politiques des syndicats, c'est qu'aujourd'hui arrive. La direction des syndicats, des cadres qui n'ont pas du tout la culture militante politique pouvaient avoir ceux qui dirigeaient la CGT, mais même la CFDT, hein, jusque dans les années 80-90. Donc là, il y a en tout cas un enjeu, un défi, on peut s'appeler ça un problème de renouvellement des cadres, de reformation des cadres. Il me semble que c'est un problème dont prennent de plus en plus conscience les directions syndicales. Je le dis parce qu'elles ont remis en place des modules de formation dédiés à leurs cadres, etc. Donc je pense qu'elles... Voilà, mais qui avait été largement abandonné ou désinvesti. Et puis après, bon, le problème, c'est que le syndicalisme français se heurte à un double problème historique. C'est que quand on compare aux pays nordiques, c'est qu'on n'est pas du tout sur les mêmes leviers de la syndicalisation dans les pays nordiques. Plus le chômage augmente, plus le nombre d'adhérents syndicaux augmente, parce que l'adhésion syndicale est une condition pour accéder au droit du chômage. En France, plus le chômage augmente, plus ça renforce les difficultés à faire des adhérents. Donc on est sur deux modèles très différents. Oui, c'est epsilon, hein, oui, absolument. Mais donc voilà, c'est ce qui est intéressant de voir, c'est que le taux de syndicalisation a baissé en Europe, dans tous les pays, sauf dans les pays nordiques, où, encore une fois, l'adhésion syndicale est la condition pour accéder aux prestations de l'assurance chômage. Et puis le deuxième aspect, c'est quand même que la configuration du monde du travail s'est complètement bouleversée. Je pense donc évidemment à la précarisation de l'emploi, mais plus encore un des éléments qui rend difficile le redéveloppement, le redéploiement de l'action syndicale, c'est l'émiettement du tissu productif. C'est-à-dire que l'éclatement des grandes entreprises en de multiples entités, etc., compte tenu des effectifs encore, je pense qu'un des points bon, qui est rarement évoqué, mais qui pour moi est capital dans un des grands problèmes du syndicalisme français, c'est le déficit de ces structures intermédiaires et la difficulté à encadrer les militants. Alors ça passe encore dans le public parce que par le biais des détachements, des mises en disponibilité, etc., il y a des militants au niveau départemental, au niveau local. Dans le privé, c'est quand même un sous-encadrement terrible et qui est un frein considérable à la syndicalisation, à la structuration dans la durée de l'organisation des syndicats.
Les unions locales et les unions départementales, quoi.
Entre autres, voilà. Ou les syndicats départementaux pour la CFDT, ça dépend des noms que ça prend, mais les problèmes sont identiques, quel que soit le nom qu'on leur donne. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, une union locale, ça veut dire concrètement la majorité des unions locales, donc qui sont sur des territoires, sont animées par un militant, au mieux, souvent un retraité, hein, et le plus souvent, c'est un retraité de la fonction publique. Et lorsqu'il y a un salarié d'une entreprise privée qui arrive avec des conventions collectives que le permanent ne connaît pas, ou lorsqu'il s'agit de négocier des accords de salaire qu'un salarié du public n'a jamais à négocier puisque ça ne se négocie pas dans la boîte, l'expertise et le soutien militant qu'il peut lui apporter est concrètement assez limité. Hein ? Donc là aussi, c'est un autre problème.
Ouais, je voulais revenir toujours sur ce que je disais. C'est-à-dire qu'on aura du mal à se faire l'économie d'une loi vu l'étendue de tous les effets pervers qui sont possibles à cause des lois déjà qui ont été votées et qui sont mauvaises. Alors voilà, je pense que, par exemple, aujourd'hui, j'écoutais la radio, il parle du bouquin de Pierre Larue-Turoux, tout, enfin machin, qui coûte 3 euros, tout ça. Bon, il y a plein de gens qui ont l'air de s'engager, de vouloir un petit peu faire avancer les choses. Et peut-être vous aussi, vous pouvez carrément même vous associer à ce genre de dynamique, parce que si moi j'arrive en pondant une loi en sachant pas grand-chose, vous auriez vraiment l'expérience et tout ça. Et je pense que l'engagement, même s'il n'a pas forcément besoin d'une couleur politique, il a peut-être besoin d'un peu de vertu, quoi.
Il est engagé, mais il faut qu'il participe aux ateliers législatifs qui vont se mettre en place le mois prochain.
Non, mais tu l'as dit. Non, mais je suis très engagé, hein, rassurez-vous. Et encore une fois, je pense qu'il y a par exemple une proposition, hein, moi je suis effaré par le fait, alors pour le coup, il n'y a quasiment aucun candidat qui peut, voire aucun, moi j'ai jamais entendu. Bon, je pense qu'une des clés, c'est l'administration du travail et l'inspection du travail. Quoi. Ça ne coûte rien pour les finances de l'État de tripler ou de quadrupler les effectifs d'inspection du travail, et ça pourrait modifier considérablement les choses dans l'entreprise, ne serait-ce qu'avant de penser à de nouvelles lois, appliquer les lois existantes. Parce que bon, pour tous ceux qui ont l'expérience du monde du travail, vous savez que leur application est quand même très inégale.
Moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien que tu précises. Est-ce que le déficit, c'est un déficit de pouvoir des instances de négociation qui ne pourraient pas appliquer les lois qu'elles ont elles-mêmes décidées, ou est-ce que c'est le principe même de la négociation qui, dans la mesure où il y a des rapports de force défavorables aux salariés, qui conduit à accentuer les inégalités? Est-ce que c'est entre les deux ou...
Point du droit du travail, les institutions représentatives du personnel ne négocient pas. La négociation est du ressort, était jusqu'en 2007, parce que c'est un point important de la loi aussi que je n'ai pas mentionné, était du monopole des organisations syndicales. Seuls les délégués syndicaux, il y a deux canaux de représentation des salariés dans l'entreprise. Et donc seuls les délégués syndicaux, donc qui ne sont pas élus mais désignés par l'organisation syndicale, sont habilités à négocier des accords. Jusqu'à la loi de 2007, qui, puisque la volonté des gouvernants est de multiplier les négociations en entreprise, ont créé la possibilité dans les entreprises où il n'y a pas de représentants du syndiqué, que ce soit les représentants élus, donc soit CE, soit DP, parce qu'il n'y a pas de CE en dessous de 50 salariés, qui soient habilités à signer des accords. Donc ça, c'est un point aussi très important, parce que je ne pouvais pas tout évoquer, mais qui s'est joué il y a 5 ans, c'est que les organisations syndicales ont perdu le monopole qu'elles exerçaient sur le droit à la négociation collective. Je pense qu'en fait, c'est les deux leviers sur lesquels il faut jouer. C'est-à-dire que les IRP auraient besoin de voir leurs prérogatives renforcées du point de vue de leur capacité à bloquer les décisions qui concernent la gestion de l'entreprise. La négociation... Comité d'entreprise, CHSCT et délégués du personnel, qui peuvent, dans certains entreprises, être des délégations uniques, enfin bon, bref. Voilà. Et autrement, ça veut dire institution représentative du personnel. Autrement, oui, ce que j'ai voulu dire, c'est que concernant le volet négociation collective, un des principaux effets pervers, c'est qu'on dit par exemple sur les 35 heures, il faut aboutir aux 35 heures, mais évidemment, il y a de multiples chemins qui peuvent mener aux 35 heures. En laissant la responsabilité aux 10 partenaires sociaux de déterminer quel chemin emprunter, en fonction du rapport de force concret qui existe dans l'entreprise, l'employeur peut imposer la sienne ou être contraint à un compromis. Voilà. Donc avec l'effet double effet pervers, pour se résumer, c'est soit la loi ne s'applique pas, là où l'égalité homme-femme en termes de salaire, c'est la plus emblématique, ça fait tout le monde dit... de droite comme de gauche parlementaire, même à droite, ils s'en trouvent pour dire c'est un scandale, que les femmes aient des salaires inférieurs à ceux des hommes, mais en même temps, tous disent il ne faut pas de loi contraignante. Moi, je pense que c'est un domaine où il faut de loi contraignante. Parce que il n'y a pas à négocier, entre guillemets. Il faut que le salaire soit le même pour tous, point.
Parce que je trouve que ton intervention, elle pourrait être utilisée comme un... Enfin, si tu veux, j'avais l'impression, en t'écoutant, que comme tu dis que la négociation, qui est donc... une sorte de renouveau de la négociation qui est présentée comme une réforme démocratique, en fait, contribue à augmenter les inégalités. Moi, je pouvais, en tant que chercheur qui travaille sur l'école, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la démocratisation scolaire, tu vois, à dire qu'une démocratisation, qui, en fait, est à l'origine d'une violence symbolique dans la mesure où elle produit un effet où les salariés qui, on leur dit... évidemment, bah, cette loi, c'est vous qui l'avez votée. Donc, en fait, une violence symbolique, c'est-à-dire une violence qui est d'autant plus acceptée qu'elle n'est pas perçue comme telle. Donc, on pourrait dire que, finalement, en t'écoutant, ça pourrait être utilisé pour, finalement, dire que cette négociation, il faut l'abandonner. Il faut... Non, tu ne crois pas que ça pourrait être...
Oui, comment ? Non, mais de toute façon, c'est le problème plus général que moi je me suis même posé sur ma thèse, hein, sur les conflits du travail, parce que beaucoup de choses que je fais dans l'analyse des conflits du travail, et malheureusement, elle sera beaucoup plus lue par les représentants de la direction que par les représentants syndicaux, peut être utilisée à des fins diamétralement opposées à celles qui étaient implicitement les miennes lorsque j'ai fait ce travail de recherche. Donc c'est bien pour ça qu'en conclusion, je prenais bien la peine de dire qu'il ne s'agissait pas pour moi de dire qu'il faut jeter aux orties de la négociation, mais pas dire la négociation pour la négociation, mais réfléchir aux conditions politiques, sociales, juridiques dans lesquelles elle s'exerce. Et qu'il faut créer les conditions pour que ça soit une négociation vertueuse, et pas qu'elle se retourne et qu'elle permette juste de dire bah, on négocie, donc on est démocrate, entre guillemets, donc les salariés ont leur mot à dire.
Sur le paysage des modes alternatifs de résolution de conflits, il y a l'apparition de plus en plus des médiations. Comment vous voyez apparaître ce mode alternatif de résolution de conflits face à la négociation ?
Alors là, vous parlez de l'appel à médiateur en cas de grève qui est longue ou
des choses. C'est ça, ou de médiateur appelé par le salarié, par exemple.
Alors, la médiation dans les conflits du travail, c'est très, très vieux. Hein. C'est très, très, très ancien dans le code du travail. Il y a la moitié des négociations collectives de branche qui se font sur ce qu'on appelle des commissions mixtes paritaires, c'est-à-dire en présence d'un médiateur de l'administration du travail, etc. Donc ces procédures de l'arbitrage, c'est très vieux. Donc je ne sais pas si on assiste véritablement d'un point de vue quantitatif à un développement.
Alors je sors d'une formation de médiation, donc c'est pour ça que je peux en parler. Donc en fait, il y a beaucoup de corps de métier maintenant qui font la formation de médiation. Pour notamment celle de généraliste, pour intervenir dans les différentes entreprises, dans les différentes gestions de conflits. Et donc, en fait, c'est l'entreprise qui appelle le médiateur. Mais le médiateur n'est pas, ou si, je, erreur, sur l'hôpital de Poitiers, il y a un médiateur social. Donc, il est déjà inclus dans la...
Je crois que ça sera la dernière question parce qu'après il va falloir qu'on passe.
C'est pas vraiment une question, mais je crois que la société aujourd'hui, enfin les problèmes qu'on voit aujourd'hui qui sont la conséquence de, on va dire du couple Reagan-Thatcher qu'on crée, on va dire peut-être les problèmes qu'on vit aujourd'hui. Moi je crois qu'aujourd'hui j'entends des gens qui, on va dire des penseurs comme Larousse Turou ou un autre que j'ai entendu qui s'appelle Stigler. Bernard, et moi je dis qu'il faut revenir à vraiment des lois fondamentales telles qu'on en a pu en faire à la fin de la guerre 39, enfin en 45, et que toutes ces lois, enfin qu'il faut vraiment reposer le problème dans son ensemble, parce que peut-être dans 10 ans, si on se réveille avec des bombes atomiques, on aura peut-être un peu perdu notre temps, quoi.
Bon, ben, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci Baptiste, merci à vous, et puis à tout à l'heure pour ceux qui restent.